Vous écoutez, on lit pour vous.
Harcèlement. La prise de parole des victimes signe un progrès en humanité. Propos recueillis par Cyril Douillet, paru le 24 juin 2025 dans Ombres et Lumières. Comment définir la maltraitance? Comment se distingue-t-elle de l'abus et de la violence? Il y a une définition officielle, fruit d'un an et demi de travail de consensus qui va prochainement entrer au Code de l'action sociale et des familles en France. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non, leur origine peut être individuelle ou collective. La maltraitance comporte deux catégories distinctes, les violences et les négligences, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait. Le mot « violence » figure dans le Code pénal, mais pas celui de « maltraitance ». Le mot « abus » est pour moi une euphémisation. Il signifie qu'on passe une marge, une limite. C'est un mot grand public, mais imprécis. La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, CIAZ, lui a d'ailleurs préféré le mot « violence sexuelle ». Des études donnent des chiffres de maltraitance et de violence sexuelle sur des personnes handicapées de plus en plus importants. Sont-ils le reflet d'une augmentation réelle ou bien d'une prise de conscience et d'une libération de la parole? Il est vrai qu'on en parle massivement en ce moment. Il y a, depuis MeToo, un phénomène de contagiosité heureuse de cette prise de parole et une mise en visibilité inédite de ces formes de violence. C'est pour moi un progrès en humanité que de savoir nommer le mal, l'intolérable. Cela dit, dans le champ du handicap, la libération de la parole est encore loin du compte. Il y a deux difficultés. Le souhait d'émancipation des personnes handicapées conduit à assimiler maltraitance et institution, comme le fait l'ONU dans un rapport récent. C'est très ambivalent, car cette confusion occulte d'autres maltraitances tout aussi massives et néglige les difficultés de l'inclusion. D'autre part, le propos sur la sexualité, dans le champ du handicap, est d'abord porté par des hommes. Qu'on pense au militantisme pour l'assistance sexuelle. Cela laisse dans l'ombre certains phénomènes qui restent hors champ. Les femmes handicapées ne prennent pas encore assez la parole. Parmi les personnes handicapées, certains publics sont-ils plus vulnérables que d'autres? L'un des défis communs aux publics handicapés est la stigmatisation et l'isolement social, qui crée un désert affectif qui fait vivre aux personnes une tension, une recherche de reconnaissance qui les rend vulnérables dans les relations. Mais sont particulièrement à risque les personnes discommunicantes, comme les personnes autistes ou polyhandicapées. Il est pour eux très difficile d'alerter en cas de maltraitance, et c'est souvent le corps qui se met à émettre des signaux alarmants, gestes autodestructeurs, cris, insomnie, troubles alimentaires, mais qui sont parfois compliqués à décrypter pour les proches et les professionnels. Tout acte de maltraitance doit-il interroger sur le contexte qui l'a permis? La violence surgit dans des contextes extrêmement différents, mais elle a des niches favorables. Ainsi, les violences sexuelles se déroulent avant tout dans les familles. Ce qui va favoriser la maltraitance, c'est la vulnérabilité de la victime, mais c'est aussi la position particulière de l'auteur, souvent concerné par des troubles mentaux, des addictions, des difficultés d'identité. L'institution est-elle en soi vecteur de violence ou de maltraitance? Oui, si elle est un lieu hors sol, hors droit, hors sociabilité ordinaire. Ce qui va exposer un lieu à devenir vecteur de maltraitance, c'est qu'il est loin des regards et loin de la régulation sociale. Mais l'institution n'est pas constitutivement vectrice de maltraitance. Elle a une fonction régulatrice, de répit, d'autonomisation très significative. Comment prévenir les risques en institution? Une institution doit organiser les visites de tiers, les vigilances, les process internes, etc. Mais la première chose, c'est de faire place à la parole des personnes accueillies. À tous les dispositifs de participation au-delà des éléments réglementaires. Il faut des lieux de parole authentiques où l'esprit critique est possible. Faire recueillir les avis des familles par des personnes extérieures, stagiaires, etc., ce qui favorise la confidentialité. Comment amener une présence tierce dans ces murs? C'est là un vrai enjeu dans une institution. Si la maltraitance inclut la négligence, n'y a-t-il pas un risque de culpabiliser tous les professionnels et proches, si souvent débordés? Il y a en effet un idéal professionnel qui peut être persécutif. Si les standards sont trop élevés, ils nous mettent en échec. Le risque n'est pas partout, tout le temps. Il ne faut pas sombrer dans la psychose. Le perfectionnisme conduit au découragement et à la culpabilité, et cela peut miner le prendre soin. Comment trouver l'équilibre entre l'idéal et quelque chose qui nous met en échec? Il faut mettre l'accent sur les progrès accomplis et encouragés. L'autre jour, je discutais de la bienveillance avec des professionnels dans une institution. J'ai voulu les amener à porter un regard bienveillant sur elles-mêmes, à dire leurs qualités et leurs richesses. Elles n'y arrivaient pas spontanément. Or, la bientraitance a à voir avec cette reconnaissance, et les managers doivent les y aider. La dynamique inclusive actuellement à l'œuvre fait-elle baisser la maltraitance? Il faut saluer les visées inclusives car elles redonnent à la personne sa qualité de sujet. Mais la désinstitutionnalisation comporte aussi des risques. La violence est loin de disparaître. Il faut interroger des jeunes handicapés qui sont autonomes, qui travaillent en entreprise, des professionnels ou des familles pour s'en rendre compte. Il ne faut pas être angélique. Quels sont vos motifs d'espérance sur ce sujet? C'est que des personnes parlent et donnent du courage à d'autres pour parler. Que des victimes se sentent assez en sécurité pour parler est signe d'un corps social qui a mûri. Nous grandissons tous en lucidité sur le fait que nous sommes et forts et vulnérables. C'était harcèlement. La prise de parole des victimes signe un progrès en humanité. Propos recueillis par Cyril Douillet, paru le 24 juin 2025 dans Ombres et Lumières.
La grand-mère aux cheveux roses, un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 18 juin 2025 dans la presse. Elle a 75 ans. Elle mesure 4 pieds 9 pouces. Elle coud ses vêtements, se teint les cheveux en rose et enseigne le vélo à des femmes qui rêvent de goûter, comme elle, à la liberté. J'ai rencontré Claire Garneau grâce à sa fille, Lauriane Dubot, qui m'a envoyé un courriel très élogieux à son sujet. Elle estimait que sa mère tombait dans ma talle d'intérêt humain et vaguement inusité. J'avoue qu'en lisant la liste de ses exploits, je me suis demandé comment une femme de 75 ans pouvait avoir tant d'énergie et de dévouement. On s'est rejointe dans un café montréalais et, près de 2 heures plus tard, elle m'a livré son secret. Je vous le livrerai aussi, promis. Claire Garneau apprend à faire du vélo à 6 ans. Coup de foudre. Elle expérimente pour la première fois le cyclotourisme en 1974, alors qu'elle fait le tour de la Beauce avec son mari. L'année suivante, le couple met le cap sur le Maine. Claire chante en roulant. Son conjoint, qui coupe le vent devant elle, se montre fatigué et impatient. « Arrête de trouver tout beau » qu'il lui lance. La phrase laisse une marque. Le couple a ensuite deux filles. Ils troquent le cyclotourisme pour d'autres aventures mieux adaptées aux jeunes familles et vivent heureux jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À 47 ans, sans trop l'avoir vu venir, Claire divorce. Elle est très, très triste. Puis elle a une idée. Et si elle participait au Grand Tour de vélo Québec? Ça fait des années qu'elle entend parler de ce voyage d'une semaine à travers une région donnée du Québec. « Je me suis inscrite et ça m'a sauvé la vie, » dit-elle. « J'ai été triste un mois, de la séparation en juin au Grand Tour de juillet. J'étais enchantée de faire du vélo. Je me suis fait une amie et vous savez quoi? On chantait toutes les deux en roulant. » Claire est transformée par ce voyage. Non seulement elle peut chanter tant qu'elle le veut, mais elle découvre aussi qu'elle peut rouler seule. C'est le début d'une longue suite d'expéditions solo, mais pas nécessairement solitaire. Quand le travail l'amène à un grand colloque parisien en 2001, Claire traîne son vélo avec elle. Une fois le boulot accompli, elle dispose de 3 semaines pour sillonner le continent européen. Je lisais Pierre Foglia qui disait tout le temps à quel point c'est beau rouler en France. C'était fatigant, ça. C'était enfin son tour. À l'époque, Claire a 51 ans. En planifiant son voyage, elle découvre un réseau international d'hospitalité voué aux cyclistes, Warm Showers. Le principe est simple. Des gens offrent gratuitement à autrui leur chambre d'amis, divan, tapis ou cours, et surtout, leur douche chaude. Elle roule à travers le Jura, Lausanne et Genève. 3 semaines de vélo seul et de cohabitation avec de gentils étrangers. Mis à part sa découverte des cols européens, qui n'ont apparemment rien à voir avec les courbes du Mont-Royal, c'est une expérience sans faute. Elle récidive l'année suivante. Quand Claire écrit à des utilisateurs de Warm Showers pour savoir si elle peut vivre chez eux, elle leur demande aussi des suggestions d'activités. Un gars de Toulouse lui offre de le suivre dans un périple avec des personnes qui ont la sclérose en plaques. C'est ainsi que Claire Garneau découvre l'Odyssée de l'espoir, une association qui permet à des personnes atteintes de la maladie de faire des voyages de vélo. Pendant une semaine, elle roule avec 15 participants et nombre de bénévoles. Je me suis vite fait adopter parce que j'ai un accent et que je suis très enthousiaste. Ils m'ont surnommée Clarinette. C'est resté. Au fil des ans, Clarinette fait 14 voyages avec l'association. Chaque fois, elle part seule pour arpenter un pays à bicyclette avant de rejoindre le groupe pour terminer son aventure avec lui. En parallèle, elle reçoit annuellement des visiteurs par l'entremise de Warm Showers. Elle les attend avec du spaghetti et de la bière fraîche, puis se fait un point d'honneur de leur faire découvrir son Montréal. Une fois retraitée, Claire choisit de redonner encore plus activement à la communauté. Elle devient instructrice pour le programme Cycliste averti de Vélo Québec. Chaque mois de mai et juin, elle roule avec des groupes de 8 à 10 élèves de 5e année pour qu'ils puissent mettre en pratique la théorie qu'ils ont apprise, code de la route, signalisation et autres affaires que les adultes gagneraient à réviser de temps en temps. Le jour de notre entrevue, elle venait tout juste d'accompagner un groupe issu d'une classe d'accueil. L'intégration sur 2 roues. Claire Garneau enseigne aussi à des femmes avec le programme Toutes à vélo, également créé par Vélo Québec. Ça vient me chercher, lance-t-elle. Elles me disent « Clarinette, c'est tellement le fun de rouler ». La prof de 75 ans est émue quand elle parle de ses élèves. C'est la liberté qu'elle leur offre. Elle le sait. et elle en est fière. Le 29 juin 2025, elle revient tout juste d'un voyage de vélo pour enseigner à un nouveau groupe de femmes. D'ici là, elle roulera 70 km par jour dans la région de Niagara Falls avec son club de cyclisme Vélo Vie. Voilà pour la portion clarinette à bicyclette et don de soi. Qu'est-ce qui explique les cheveux roses maintenant? Teindre une repousse grise avec une couleur naturelle, ça faisait madame, selon elle. Là, j'ai une couleur de cheveux originale qui me définit bien. Je suis un peu punk et je n'ai pas honte de qui je suis. Excellent. Et le truc pour avoir tant d'énergie à 75 ans? Faut pas se badrer. Simple de même. C'était « La grand-mère aux cheveux roses », un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 18 juin 2025 dans la presse.
Gardien de valeur, un texte de Sébastien Saint-Hilaire, paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. Dans le milieu financier, un gardien de valeur est une institution chargée de détenir et de sécuriser les actifs financiers d'un client, tout en assurant leur bonne administration. Il joue un rôle central dans la protection contre la fraude, la perte ou le vol, en conservant les titres, actions, obligations, fonds, dans un environnement sûr et réglementé. En plus de cette fonction de garde, il peut aussi gérer les opérations liées aux actifs comme la perception des dividendes ou la tenue de registre. Il agit ainsi comme un pilier de confiance dans l'écosystème financier, garant de l'intégrité et de la transparence. Mais aujourd'hui, la fonction de gardien de valeur prend encore plus de sens lorsqu'on parle d'investissement responsable. Les valeurs à préserver ne sont plus seulement financières. Elles sont aussi éthiques et sociales. Un nombre croissant d'investisseurs nous demande non seulement où va leur argent, mais aussi ce qu'ils soutiennent, et cela transforme profondément notre métier. L'investissement responsable ne doit pas être seulement une case à cocher. Il est devenu, surtout pour les plus jeunes générations, un prolongement de leur identité. Pour nous, les conseillers, cela signifie une chose très simple, mais très exigeante, celle d'évoluer. En quelques années, notre métier a changé. Nous sommes passés de conseillers en placement à gestionnaires de portefeuille pour ensuite devenir des gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir des gestionnaires de valeur. Si nous voulons faire de l'investissement responsable, ce n'est plus un travail d'allocation de capital, mais un travail de filtrage actif d'industries ou d'entreprises controversées. Notre rôle doit être de faire le pont entre le patrimoine, les principes et les personnes. La question, les critères ESG sont-ils importants pour vous? Sert encore trop souvent de point d'entrée maladroit à une conversation pourtant essentielle. Elle laisse entendre que l'approche ESG, qui prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, est un module périphérique, un accessoire facultatif. D'autant plus que pour les conseillers qui ont moins d'intérêt ou qui sont intimidés de parler d'une démarche moins familière, elle peut servir à balayer de la conversation l'angle de l'investissement responsable dans l'approche d'investissement. Nous avons la responsabilité de poser de meilleures questions. Non pas « souhaitez-vous investir de façon responsable ?» mais « y a-t-il des secteurs ou pratiques que vous préférez éviter ?» Quel impact souhaitez-vous laisser avec votre portefeuille? Y a-t-il un domaine comme l'éducation, l'environnement, la santé qui vous tient à cœur? Ces questions sont importantes, car elles nous révèlent une matière première précieuse pour bâtir un portefeuille véritablement aligné et des relations profondes. Approfondir ce rôle de gardien de valeur exige aussi un déplacement intellectuel. Il ne suffit plus de maîtriser les principes de l'école de Chicago, où les marchés sont parfaits, les acteurs rationnels et les externalités ignorées. Cette vision, aussi utile fut-elle, ne suffit plus à expliquer un monde traversé par les crises climatiques, les inégalités et les fractures générationnelles. Pour donner des conseils de manière pertinente aujourd'hui, il faut lire autrement. Explorer la pensée critique, la sociologie, l'histoire économique, la philosophie morale. Comprendre pourquoi des clients veulent exclure certains secteurs ou soutenir certaines causes. Et surtout reconnaître qu'à chaque décision d'investissement correspond un récit, un sens. Le conseiller ne doit plus se contenter de suivre les marchés. Il doit lire le monde dans toute sa complexité. Ce n'est pas une question de marketing ou de positionnement. C'est une nécessité. D'une part, parce que les jeunes générations adhèrent massivement à l'ESG. Selon une étude de Morgan Stanley, plus de 80% des membres de la génération Z et des millénariaux prévoient d'augmenter leur investissement durable cette année. D'autre part, parce que les ressources de la planète ne sont pas infinies. Les effets des changements climatiques ne sont plus théoriques, ils sont visibles, mesurables et parfois dévastateurs. Dans ce contexte, ignorer les répercussions environnementales et sociales d'un portefeuille, c'est tout simplement nier la matérialité des risques, et c'est, à long terme, trahir la promesse de protection que suppose notre métier, celui de gardien de valeur 2.0. Plus on sera exigeant à cet égard, plus les entreprises devront redoubler d'efforts dans leur divulgation de données extra-financières. Même lorsqu'un client se dit peu au fait de l'ESG ou de l'investissement responsable, notre rôle n'est pas de détourner le regard. Il est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions simples mais puissantes, d'être un allumeur de conscience. Car l'investissement responsable, ce n'est pas seulement exclure quelques titres controversés, c'est souvent éliminer des pans entiers d'un marché qui, bien que rentable à court terme, génère des externalités négatives insoutenables à long terme. En les évitant, on réduit les risques en matière de réputation, de réglementation, sans oublier les risques financiers et ceux qui touchent à l'horizon de placement. Filtrer les valeurs génère de la valeur. C'est important de bien l'expliquer. Il y va de l'avenir de mon métier, celui de conjuguer performance et pertinence, être non pas un gestionnaire de portefeuille, mais un vrai gardien de valeur. C'était « Gardien de valeur », un texte de Sébastien Saint-Hilaire paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
Des exemples des impacts à venir de la crise climatique au Québec. Un texte d'Alexandre Shields paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. Le Québec n'est pas épargné par le réchauffement climatique, qui est 2 ou 3 fois plus rapide ici que la moyenne mondiale. Avec la hausse prévue des températures, les impacts seront de plus en plus importants et coûteux pour la société. Voici quelques exemples. Des infrastructures menacées. Une étude produite par le consortium scientifique Ouranos et la firme WSP concluait en 2023 qu'il faudrait investir 20 milliards sur une période de 10 ans pour aider les municipalités à s'adapter au changement climatique. Afin de pouvoir gérer des eaux pluviales plus abondantes, il sera par exemple nécessaire d'installer des conduites plus imposantes et de développer de nouveaux réseaux, lorsque ceux-ci ne sont pas séparés des réseaux d'égouts. On prévoit aussi une accélération de la détérioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Plus que jamais malmenés, notamment par les cycles de gel-dégel, les routes et les ponts nécessiteront pour leur part davantage d'entretien préventif. Il faudra aussi choisir des matériaux mieux adaptés à des climats plus chauds, revoir les techniques utilisées pour la reconstruction et mieux prévoir les risques liés à l'érosion, notamment l'érosion côtière. Des chaleurs de plus en plus intenses. Les villes seront de plus en plus chaudes dans les années à venir, d'une moyenne annuelle de 3 journées à plus de 32 degrés Celsius. Il y a de cela une décennie, on pourrait passer à une moyenne de plus de 20 jours d'ici à 2040, puis de près de 50 jours avant la fin du siècle, selon des données de l'Institut national de santé publique du Québec. Dans ce contexte, soulignent plusieurs experts, il est essentiel de réduire les risques liés à cette chaleur, notamment grâce au verdissement à grande échelle des milieux urbains. Cela pourrait notamment passer par un recul de l'espace accordé aux voitures afin de créer des espaces verts accessibles aux citoyens. Les scientifiques insistent d'ailleurs sur l'urgence d'entreprendre un tel chantier qui impliquerait une transformation en profondeur du modèle de développement de nos milieux urbains. Vers des pénuries d'eau? Dans un contexte de bouleversement climatique, le Québec sera davantage vulnérable aux inondations, mais aussi aux périodes de forte baisse des niveaux d'eau, prévenait, dès 2022, le rapport « Perspectives régionales ». Financé par le gouvernement fédéral et rédigé principalement par des experts d'Ouranos. Ces épisodes, plus sévères et plus longs, risquent d'affecter la disponibilité et la qualité de l'eau potable au Québec. L'augmentation des étiages, notamment dans le fleuve Saint-Laurent, pourrait causer des dégâts considérables compte tenu du fait que ce fleuve est la source d'approvisionnement en eau potable de près du tiers de la population québécoise. Le manque d'eau risque aussi d'avoir un impact sur l'irrigation des terres agricoles et sur la navigation commerciale. C'était des exemples des impacts à venir de la crise climatique au Québec. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.